Bienvenue dans l'épisode 34 de Plénitude Podcast, l'impact méconnu du stress sur tes troubles digestifs. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour te libérer des troubles liés au stress chronique. Je suis Julie, professeure de yoga et naturopathe, mais aussi une grande sensible, qui a longtemps souffert de troubles digestifs, d'anxiété, d'allergies et d'autres troubles liés à mon système nerveux. Dans ce podcast, je te livre, à mon rythme, des clés de compréhension et des outils concrets pour réguler ton système nerveux et te libérer de tes troubles physiques et émotionnels liés à ce stress chronique qui te gâche la vie. Si toi aussi, tu veux être acteur, actrice de ton mieux-être et de ta santé et enfin ressentir une sensation de plénitude, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je te propose un épisode autour de la digestion, des maux de ventre et de l'impact trop souvent sous-estimé du système nerveux et donc du stress. Quand on a des problèmes de ventre et qu'on souhaite améliorer sa digestion, on pense généralement en premier à modifier son alimentation. Pourtant, l'alimentation, bien qu'importante évidemment, est loin d'être le seul facteur à prendre en compte pour travailler sur la sphère digestive. Les facteurs qui influencent la digestion sont en réalité multiples. Mastication, qualité et quantité des sucs digestifs produits par notre estomac, notre pancréas et notre foie, variété et qualité de notre flore intestinale, motilité intestinale, quantité d'eau ingérée suffisante et je pourrais en citer bien d'autres. Alors bien sûr, l'alimentation va aussi jouer un rôle important. Mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière la production des sucs digestifs, derrière la motilité intestinale, derrière l'équilibre du microbiote? Comme souvent quand c'est des choses qu'on ne contrôle pas, le système nerveux n'est jamais loin. C'est donc vraiment une piste à ne pas négliger, et j'avais envie aujourd'hui de t'expliquer un peu mieux ce qui se passe dans ton corps au niveau digestif quand tu es stressé de manière chronique, car comme je te l'ai déjà dit, je suis passée par là, par le fameux « c'est le stress des médecins », qui m'insupportaient au plus haut point car je n'y voyais pas d'issue, eh bien, même s'ils avaient raison, en grande partie, car comme je te l'ai dit au début, c'est souvent multifactoriel tout ça, je crois que si on m'avait expliqué exactement pourquoi et comment le stress impactait ma digestion, ça m'aurait été bien plus utile et ça m'aurait motivé à grandement travailler sur mon stress. Avant de démarrer l'épisode, je voulais t'annoncer que le programme Plénitude va bientôt réouvrir ses portes sous un tout nouveau format, plus modulable selon tes besoins et tes envies. Plénitude, c'est un programme 100% en ligne pour apprendre à ne plus être submergé par le flot de tes pensées et de tes émotions, afin de retrouver ta pleine vitalité, mais aussi pour mieux vivre ton hypersensibilité et te libérer des troubles physiques qui y sont associés. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente pour recevoir toutes les informations au sujet de Plénitude et bénéficier d'une petite surprise lorsque le programme réouvrira ses portes. Je te mets le lien de la liste d'attente dans les notes de cet épisode. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Nous le savons aujourd'hui, les troubles digestifs sont la porte d'entrée de nombreuses maladies, les carences, l'inflammation, les troubles de l'humeur, les maladies auto-immunes, les allergies, les problèmes de peau, et les résoudre peut éliminer bien des problèmes. Les causes des troubles fonctionnels intestinaux sont multiples. Elles peuvent être dues aux habitudes hygiéno-diététiques, donc la sédentarité, une alimentation inadaptée, une intolérance à certains aliments, une hydratation insuffisante, des rythmes de vie inadaptés et bien évidemment le stress et surtout le stress chronique dont les répercussions sur le système nerveux vont largement impacter le système digestif. Donc ce que on va faire en premier, c'est reparler des processus clés de la digestion. Donc comme je te le disais dès l'introduction, pour que ta digestion se passe bien, il y a différents processus clés qui entrent en jeu. Le corps utilise des actions à la fois mécaniques mais aussi chimiques pour réduire les aliments au stade de nutriments et micronutriments assimilables. Je t'ai détaillé comment fonctionne l'appareil digestif dans l'épisode 7 du podcast « La digestion à la base de la santé ». Mais voici quand même un bref rappel. Au niveau de la bouche, la mastication va avoir un rôle mécanique essentiel pour réduire la taille des aliments. mais un rôle également chimique grâce à la sécrétion d'une enzyme dans la salive qui va commencer à prédigérer les amidons, donc les sucres complexes qu'on va retrouver dans les féculents. Et donc, la mastication, ça va être la première étape clé de la digestion, indispensable, en dehors même du système nerveux. Mais je pourrais amener une petite précision, si on s'assoit à table dans un état de stress, il y a de grandes chances qu'on mange plus vite. Plus on va être détendu et dans un espace de conscience, plus on va mastiquer facilement de manière plus lente. Au niveau de l'estomac, lui, il a également une action mécanique et une action chimique. Il va malaxer le bol alimentaire et il va l'imprégner de différents sucs digestifs et enzymes qui vont continuer à dégrader les aliments en plus petites molécules et notamment dans l'estomac, les protéines. Ensuite vont intervenir le pancréas et le foie qui vont déverser des enzymes et des sels biliaires à l'entrée de l'intestin. Et c'est ensuite dans l'intestin donc que la digestion du bol alimentaire va continuer. Et plus on va avancer dans l'intestin, plus les nutriments seront suffisamment petits pour être absorbés par l'intestin au niveau des villosités à l'intérieur même du tube intestinal. Enfin, nous arrivons au côlon. Le côlon va réabsorber l'eau pour permettre la création puis l'élimination des sels et donc des déchets dont le corps n'a pas besoin. Et il y a également à ce niveau-là une réabsorption de certaines vitamines, de sels biliaires qui sont renvoyés au foie, etc., etc. Ce qui va être également une clé de la digestion, ça va être d'avoir une bonne vascularisation de tout l'appareil digestif qui va être indispensable à son fonctionnement. La motricité du tube digestif est également primordiale. Donc la motricité, elle est composée à la fois du péristaltisme et du complexe migrant moteur, qui sont des mouvements ondulatoires, un peu comme des vagues, qui permettent de faire avancer le bol alimentaire. Et enfin, je ne pourrais pas parler de la digestion sans citer le microbiote, qui, s'il ne fait pas partie réellement de notre corps, hein, ce n'est pas humain, il est bel et bien essentiel à notre fonctionnement. Il faut savoir que notre intestin et notre côlon sont peuplés de 40 milliards de bactéries, autant que le nombre de cellules qu'on a dans notre corps, et qui peuvent être jusqu'à 1000 sortes différentes. Notre flore, elle a de nombreux rôles, et on ne pourrait pas vivre sans elle, donc c'est vraiment hyper important de comprendre qu'on est autant microbien, bactérien que humain. Et je ne vais pas détailler tous les rôles du microbiote aujourd'hui, mais simplement ceux qui nous intéressent dans cet épisode, c'est-à-dire ceux qui impactent la digestion, et donc les troubles digestifs. Donc il faut savoir que les bactéries de notre microbiote, elles ont un rôle dans notre digestion, car elles vont pouvoir fermenter les glucides, et notamment des glucides complexes que nous n'arrivons pas à digérer nous-mêmes, car nous ne possédons pas les enzymes adaptées. Et ce sont les enzymes sécrétées par ces bactéries qui vont permettre la dégradation de ces sucres complexes. Le microbiote a également un rôle de protection de notre muqueuse intestinale contre les bactéries qui seraient trop agressives. Donc ça va être ici aussi hyper important d'avoir un bon équilibre au niveau de la flore intestinale pour protéger la muqueuse intestinale des agressions et donc éviter des douleurs et aussi une perméabilité intestinale qui deviendrait trop grande et qui pourrait créer de l'inflammation et donc à nouveau des douleurs et des problèmes. Il faut savoir que le microbiote sécrète ou agresse le mucus en fonction du type de bactéries qui sont présentes. Et le mucus, c'est cette couche en fait protectrice de la muqueuse intestinale qui est hyper importante également. Donc à nouveau, selon l'équilibre de la flore intestinale, on va avoir protection ou agression du mucus et donc de la barrière intestinale. Et enfin, il faut savoir que les bactéries peuvent sécréter des substances qui peuvent être soit pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires selon les bactéries. Donc les substances inflammatoires, elles vont augmenter la sensibilité de certains récepteurs qui sont localisés dans l'intestin. Et quand ces récepteurs vont être activés à cause de cette inflammation, cela va augmenter notre sensibilité à la douleur et à la distension viscérale. Donc vraiment, il y a un rôle hyper important de l'équilibre du microbiote dans la digestion et dans les troubles digestifs. On comprend que tous ces processus mécaniques, chimiques, et on pourrait dire bactériens, sont tous importants et tous interconnectés. Et ils sont orchestrés de manière automatique par notre système nerveux autonome et par notre système nerveux entérique. De leur bonne orchestration va dépendre la bonne santé digestive globale. Donc justement, on va aller voir un petit peu plus en détail le rôle du stress dans la digestion et on va commencer par établir le lien entre le système nerveux et la digestion. La digestion, c'est une fonction autonome de notre corps. Tu n'as pas besoin de dire à ton estomac de sécréter des enzymes, comme on aurait besoin de se dire « je lève mon bras pour lever le bras ». Ça relève de notre système nerveux autonome, on n'a pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Ce système nerveux autonome, il a trois composantes. Le système nerveux sympathique ou orthosympathique et le système nerveux parasympathique qui fonctionne de manière antagoniste et dont on a déjà largement parlé dans ce podcast. Tu peux notamment te référer à l'épisode 32, ce qui se passerait si tu régulais ton système nerveux. Et la troisième composante de ce système nerveux autonome qui concerne la digestion, c'est le système nerveux entérique. Les fonctions influencées par le système nerveux autonome sont nombreuses au niveau digestif. Il y a le péristaltisme, donc cette motricité dont on a parlé, le relâchement des sphincters, la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, la production des enzymes, donc des enzymes pancréatiques, mais également de la bile par le foie. Donc faisons un petit focus sur ce système nerveux entérique. Le système digestif possède un système nerveux qui lui est propre, donc qu'on appelle le système nerveux entérique. C'est celui dont on parle quand on parle du deuxième cerveau. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. C'est la partie du système nerveux autonome qui va contrôler le digestif, aussi bien pour l'activité motrice, donc il va avoir un impact sur le péristaltisme, sur d'éventuels vomissements, sur le complexe migrant moteur, sur les réflexes en fait au niveau de notre intestin. Mais il va également avoir un rôle dans les sécrétions et la vascularisation de l'intestin. Donc ce système nerveux entérique, en fait, c'est un système d'intelligence qui est en interaction constante avec le système nerveux central, notre cerveau, via le nerf vague dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Donc on appelle ce système nerveux entérique le cerveau viscéral ou second cerveau. Il est en réalité intégré dans le tissu conjonctif qui tapisse l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Et il est considéré comme faisant partie du système nerveux autonome, mais en fait il va recevoir des informations directes du système nerveux central, notre cerveau, par le nerf vague. Il est également en interaction avec le système nerveux autonome sympathique et parasympathique, mais il peut aussi agir indépendamment des autres systèmes de manière tout à fait autonome. Il contient 200 millions de neurones, c'est plus que la moelle épinière. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en quelque sorte que notre ventre, il a un peu comme son propre esprit, d'où le nom de deuxième cerveau. Et alors, peut-être que ça fera pas écho pour toi, mais moi, ça a longtemps fait rire mes amis, car je parle de mon ventre comme d'une personne à part entière. Je l'appelle, donc mon ventre a fait ci, mon ventre a décidé ça. Car en effet, j'ai toujours eu cette sensation de n'avoir aucun contrôle direct sur lui et que c'est lui qui décide tout ce qu'il a envie de faire. Alors, quels sont les mécanismes biologiques du stress et leur impact sur la digestion? En fait, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé et comment ça va impacter la digestion? Lorsque ton corps se retrouve face à une situation qu'il juge comme stressante, on l'a déjà vu, le mode sympathique ou orthosympathique de ton système nerveux autonome s'active. C'est le fameux mode survie ou le mode combat-fuite. Dans ce mode-là, il faut bien comprendre que la digestion, elle est secondaire. En fait, le corps, sa priorité, c'est de survivre. Donc digérer, bof, c'est pas très intéressant. Du coup, l'afflux sanguin vers les organes digestifs diminue au profit des muscles, la motricité diminue, les sécrétions des enzymes et des sucs digestifs sont inhibées et les sphincters sont contractés. Et puis, quand on est dans ce mode combat-fuite, il y a une sécrétion de cortisol assez importante en excès qui va lui aussi avoir différents impacts. On va avoir une augmentation de la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc ça peut créer des brûlures, des ulcères dans les cas extrêmes, des gastrites, ou bien à l'inverse, ce qu'on appelle une hypochlorhydrie réactionnelle, c'est-à-dire que comme on va sécréter de l'acide à des moments où il n'y a pas besoin, où l'estomac est vide et il n'y a rien à digérer, au moment où on a besoin de digérer, eh bien l'estomac n'a plus de force, n'a plus la capacité de sécréter l'acide chlorhydrique nécessaire. Et ça aura des répercussions intestinales, parce que du coup, les protéines seront mal digérées dans l'estomac, laissant donc des morceaux arriver de manière trop grosse dans l'intestin, ce qui va pouvoir créer une inflammation et une dysbiose intestinale, car ces morceaux de protéines vont nourrir des bactéries plutôt pro-inflammatoires, et donc on va avoir des ballonnements, des douleurs, etc. Deuxième réaction liée à un excès de cortisol, il va y avoir sécrétion d'une substance au niveau de nos cellules intestinales qui va altérer le mucus. Cette altération du mucus intestinal, elle a plusieurs conséquences, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, ça va rendre la muqueuse intestinale plus fragile, ça risque d'augmenter la perméabilité intestinale, ça permet un moins bon accueil des bactéries bénéfiques et ça augmente du coup le risque d'irritation par des bactéries moins bénéfiques qui seraient pro-inflammatoires, par les aliments irritants, par la bile. Ça va donc entraîner une production de molécules inflammatoires et créer un climat douloureux et inflammatoire. Autre conséquence, la production de cortisol en excès va avoir un impact sur l'hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire la façon dont on va ressentir la douleur. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, l'intestin est rempli de récepteurs qui sont normalement silencieux, qui peuvent s'activer en présence d'inflammation et qui vont donc déclencher à ce moment-là une hypersensibilité à la distension et à la douleur. Et c'est ce qu'on retrouve très fréquemment dans les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Et enfin, dernier effet d'un cortisol en excès, la perturbation du microbiote. En fait, quand on a un cortisol en excès, ça va perturber la régulation de nombreux processus immunitaires. Le stress chronique favorise l'inflammation à la fois locale et à la fois dans tout le corps. Et ça perturbe le dialogue entre le système immunitaire et le microbiote, ce qui risque de porter atteinte à la composition même du microbiote et à favoriser l'expansion de certaines souches au détriment d'autres et donc de déséquilibrer, d'aller vers une dysbiose. A contrario, lorsqu'on est détendu, le système nerveux parasympathique est activé. C'est ce qu'on appelle le mode repos-digestion. Donc là, il n'y a même pas besoin d'épiloguer, hein, c'est dans le mot, c'est dans le nom de ce mode-là. En fait, dans ce mode-là, la digestion, elle est prioritaire. C'est vraiment justement le mode dans lequel on digère. Et du coup, la sécrétion des sucs digestifs et des enzymes par l'estomac, le foie et le pancréas est stimulée. La motricité est augmentée. Le mucus est produit en qualité et en quantité suffisante. Il y a une bonne quantité d'afflux sanguin vers le système digestif. Les sphincters sont relaxés. L'équilibre immunitaire est maintenu. Alors bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est une question de mesure. Ce n'est pas parce que tu subis un stress ponctuel que tu vas forcément avoir des problèmes de ventre. Même si peut-être que tu as remarqué quand même que tu digères moins bien si tu manges en étant fâché ou après une dispute en colère, ou bien si tu étais très stressé par un événement en particulier, je pense par exemple à une prise de parole en public, ça peut t'arriver d'avoir des troubles du transit ou du mal à digérer. Mais en général, c'est plutôt le stress chronique, c'est-à-dire le fait de passer beaucoup de temps dans ce mode du système nerveux orthosympathique et d'avoir des difficultés à se détendre et à repasser dans le mode parasympathique qui va réellement impacter la digestion. Alors justement, quelles sont les conséquences du stress chronique sur la digestion? Eh bien, une personne qui va passer trop de temps en mode orthosympathique, elle pourra souffrir de brûlures, d'aigreurs et de reflux gastriques en lien avec une production d'acide chlorhydrique inadaptée, trop importante au moment où il n'y en a pas besoin et pas assez importante au moment où il y en a besoin. Elle pourra également souffrir de mauvaise digestion des graisses, ici en cause la diminution de la sécrétion de bile par le foie. Elle pourra souffrir de constipation ou de diarrhée fulgurante, de ballonnement, qui sont en lien avec les troubles de la motricité intestinale ou l'altération du microbiote. Elle pourra souffrir de dysbiose intestinale et de tous les troubles qui en découlent. Donc la dysbiose intestinale, c'est un déséquilibre du microbiote avec trop de mauvaises bactéries ou pas assez de bonnes bactéries ou une combinaison des deux. Et ça a de nombreuses conséquences, Donc dégradation du mucus, augmentation de la perméabilité intestinale, inflammation, troubles du système immunitaire, troubles de l'humeur. Ça peut même aller jusqu'à des choses beaucoup plus graves comme Alzheimer, l'autisme, les rhumatismes, les maladies auto-immunes, etc. Et puis, tout simplement, elle pourra souffrir de syndrome de l'intestin irritable, qui en général est un mélange de tout ce qu'on vient de voir au-dessus, et qui est lié à l'inflammation de bas grade, à la dysbiose et à l'hypersensibilité viscérale. Donc on comprend, après tout ce qu'on vient de dire, pourquoi le stress, l'équilibre du système nerveux est un facteur essentiel à prendre en compte quand on essaye de soulager ces troubles digestifs. Bien sûr, comme on l'a vu en introduction, les troubles seront souvent multifactoriels. Mais prendre soin de son système nerveux sera essentiel à la prise en charge globale puisqu'il est de toute façon à la source. Mais attention, la difficulté, c'est le risque d'une installation d'un cercle vicieux car le dialogue intestin-cerveau, c'est une communication à double sens. Ça veut dire que, oui, le cerveau peut envoyer des messages via le nerf vague à notre intestin, mais les bactéries intestinales, elles sécrètent aussi tout un tas de molécules qui activent les différentes cellules intestinales, les cellules immunitaires, les cellules endocriniennes, les neurones, etc., qui vont alors envoyer des messages au cerveau par les voies sanguines, par les voies immunitaires, par les voies endocriniennes et aussi par la voie nerveuse à travers le nerf vague. Et il semblerait que ce sens de communication soit même plus important, comme si c'était notre ventre qui communiquait encore plus vers notre cerveau que l'inverse. Donc un déséquilibre du microbiote intestinal, ça peut aussi créer un signal de stress au cerveau. Ce qui veut dire que, on peut avoir ce cercle vicieux qui s'installe, j'essaie de réduire mon stress pour avoir moins mal au ventre, mais en réalité, mes problèmes de ventre créent du stress dans mon cerveau. Donc il faut aussi aller résoudre les problèmes de ventre au niveau du ventre. C'est bien pourquoi l'équilibre du système nerveux sera toujours au cœur de la stratégie, mais la prise en charge, elle doit quand même rester globale. S'il y a une dysbiose intestinale, on va pouvoir éviter que ça s'aggrave ou que ça revienne ou que ça continue en travaillant le système nerveux, mais il va quand même falloir aller travailler sur la dysbiose directement. Donc dernière partie de cet épisode, les stratégies pour gérer le stress et pour donc améliorer la digestion. Donc j'imagine que c'était la partie la plus importante que tu attendais. Qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper de son système nerveux, pour éviter le stress chronique et pour préserver la digestion? Alors je dis toujours qu'il y a deux façons de diminuer le stress chronique. Déjà en modulant notre perception des sources de stress à la source. Donc j'en parlais dans l'épisode sur la charge mentale et sur l'organisation. C'est vraiment hyper important de réduire les sources de stress déjà à la source. La méditation, ça peut aussi être un très bon outil pour cela, pour prendre du recul en fait sur ce qui nous arrive et ce qu'on vit. Également, j'aime bien recommander la technique des flots de pensée que vous allez pouvoir retrouver dans le podcast de Change ma vie. Donc il s'agit d'écrire pendant 5 ou 10 minutes de manière totalement automatique tout ce qui nous passe par la tête, de manière à vider un petit peu notre cerveau. Puis après, la deuxième façon de diminuer le stress chronique, ça va être de venir réduire physiquement le stress à l'aide de différents outils, de différentes techniques. Donc voici quelques suggestions. Une des premières choses que tu peux faire qui sera bénéfique à ton système nerveux, c'est de ralentir un peu le rythme. De ne pas être constamment surchargé, de passer de tâche en tâche, sans faire aucune pause, de tout le temps aller très très vite et de ne jamais t'arrêter, car cela met ton système nerveux en alerte, comme s'il y avait une urgence, comme s'il avait besoin d'être en hypervigilance. Donc je t'invite à écouter les épisodes 9, 28 et 33 à ce sujet. Ensuite, il y a pour moi la respiration qui est un outil incontournable. Il faut bien comprendre que la respiration, c'est notre porte d'entrée vers le système nerveux autonome. C'est la seule fonction qui est contrôlée par le système nerveux autonome sur laquelle nous aussi on peut avoir une action. Et du coup, c'est un excellent moyen de s'ancrer dans le système parasympathique. Alors bien sûr, on peut citer la cohérence cardiaque, très connue. Tu trouveras plein d'applications gratuites pour t'entraîner. Mais évidemment, j'ai une petite préférence pour les nombreux exercices de respiration du yoga qu'on appelle les pranayama, que je trouve particulièrement puissants. Le fait d'améliorer l'amplitude respiratoire avec les exercices de respiration, ça va aussi augmenter le déplacement du diaphragme et par un simple jeu mécanique, ça va venir masser l'ensemble des organes de la digestion. Donc en plus d'avoir un effet sur le système nerveux, on a un effet de massage des organes. Ça va aider à améliorer le péristaltisme, ça va lui donner un rythme doux, un rythme calme et régulier. Et puis bien sûr, ça va stimuler le système nerveux parasympathique et donc favoriser la digestion par la production des sucs digestifs, etc. Pour renforcer particulièrement le système parasympathique, il est recommandé de privilégier des exercices avec des expirations qui sont plus longues que les inspirations et en rajoutant une période de suspension poumon vide, ça veut dire de garder les poumons vides quelques secondes avant de réinspirer. Alors attention, je mets toutefois un petit bémol sur les exercices de respiration. Si tu es dans un état d'anxiété majeure, le fait de te concentrer sur ta respiration, ça peut être difficile parce que tu vas ressentir toutes les sensations d'anxiété de manière amplifiée. Et donc, il vaudra peut-être mieux privilégier d'autres techniques pour démarrer, le temps de faire redescendre la sensation d'anxiété. Alors ensuite, évidemment, il y a le yoga. Le yoga, c'est un outil très puissant pour réduire le stress physique. Il a été prouvé que le yoga réduit le taux de cortisol dans le sang. Alors le yoga postural aura l'avantage de créer un massage qui est bénéfique pour les organes digestifs. Et avec le yoga restauratif et le yoga nidra, on va avoir une garantie de passer au mode parasympathique très facilement. Donc les deux sont complémentaires, c'est vraiment pour moi des outils très intéressants pour traiter et soigner les troubles digestifs par le biais du système nerveux et des massages. Il y a également la réflexologie plantaire qui est un excellent outil pour réduire le stress et qui va permettre de cibler les zones réflexes du système digestif pour soutenir son fonctionnement. On pourrait évoquer la sophrologie qui est également une technique tout à fait adaptée pour relaxer le système nerveux et pour modifier notre rapport au stress, pour moduler notre perception du stress. On pourrait également citer les huiles essentielles relaxantes. Alors comme ça, je vais vous citer la lavande, le petit grain bigaradier, la camomille romaine, mais il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. On peut les utiliser en respirant directement au-dessus du flacon, en diffusion, en prenant un bain de pied ou un bain du corps, en appliquant dilué dans le dos au niveau de la colonne vertébrale. Donc vraiment, il y a plein de façons de les utiliser. Il y a également les plantes adaptogènes, donc on pense à la rhodiole par exemple, qui vont être intéressantes pour aider le corps justement à mieux gérer le stress quand il y a une période de stress importante qui doit durer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le corps à mieux s'adapter? Et puis, il y a des plantes qui ont des actions à la fois sur les troubles digestifs, à la fois sur le stress. Et donc, tous les troubles digestifs en lien avec le stress vont être particulièrement bien soulagés par ces plantes-là. Donc, je pense notamment au figuier ou à la mélisse. Et puis, bien sûr, il y a des plantes qui vont aider à agir sur le microbiote, comme le noyer. Cet épisode touche à sa fin. Tu l'auras compris, la prise en charge des troubles digestifs, elle passera toujours par un travail sur le système nerveux, mais elle nécessite en général de travailler de manière plus global, et c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements de naturopathie. Comme je te le disais au début de cet épisode, je suis en pleine refonte du programme Plénitude, mais je peux déjà te dire quelques mots sur cette refonte. Tu pourras à présent acheter différents packs avec les modules qui t'intéressent le plus et choisir de compléter si tu le souhaites avec un accompagnement individuel pour aller plus loin, justement pour solutionner des problèmes personnels un peu plus profond comme les troubles digestifs. Si tu veux recevoir toutes les informations à ce sujet et bénéficier d'une petite surprise, je te rappelle que tu peux t'inscrire à la liste d'attente que tu retrouveras en lien dans les notes de cet épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu aimes le podcast et que tu as envie de le soutenir, pense à le noter, à le partager autour de toi et à me faire tes retours. C'est très motivant pour moi. Mille merci d'avance. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour ton écoute et prends bien soin de toi.